Avec vous, Henri Fournic. 17h à Nouakchott, 20h à Tananarive. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Au Kenya, la police kenyane a fait usage ce mardi du gaz lacrymogène contre des manifestants qui dénonçaient les brutalités policières à Nairobi, la capitale. Au moins 57 protestataires ont été arrêtés pour avoir contrevenu à l'interdiction des rassemblements publics ordonnés dans le cadre de la lutte anti-coronavirus. Les protestations ont été organisées pour commémorer le jour de Saba, le septième jour du septième mois en Swahili. Il manque la journée du 7 juillet 1990, au cours de laquelle de violentes manifestations avaient éclaté pour réclamer des élections libres dans un pays alors dirigé d'une main de fer par l'autocrate Daniel Arap Moi. Cette année, la manifestation visait aussi à dénoncer les manières fortes employées par la police pour mettre en application le couvre-feu nocturne instauré pour empêcher la propagation du COVID-19. Depuis la mise en place du couvre-feu, des policiers ont été impliqués dans la mort d'au moins 15 personnes, selon un décompte de l'autorité indépendante de contrôle de la police. La police kenyane est régulièrement accusée par les groupes de défense des droits humains d'utilisation excessive de la force et même d'exécution extrajudiciaire, en particulier dans les quartiers pauvres. Négociations entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil Bleu. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré ce mardi que les récents troubles dans son pays ne changeraient pas son plan de commencer le remplissage du réservoir du barrage ce mois-ci, en dépit des objections formulées par les deux pays en aval, à savoir le Soudan et l'Égypte. Les troubles ont éclaté après l'assassinat du célèbre chanteur Ouchalo Ondessa, tué par balle au début de la semaine dernière. Abiy Ahmed avait dit la semaine dernière que le meurtre d'Ouchalo Ondessa et les violences qui ont suivi visaient à semer la division en Éthiopie. Le Premier ministre a été plus explicite aujourd'hui. Abiy Ahmed a déclaré que les troupes avaient pour objectif de faire obstacle au plan d'Addis Abeba concernant le grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Agitation anglophone au Cameroun, l'information diffusée sur les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet de négociations entre une délégation gouvernementale et des sécessionnistes n'est pas conforme à la réalité. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement camerounais René Emmanuel Sardi dans un communiqué publié lundi soir. Vendredi dernier, l'un des principaux chefs séparatistes anglophones, Julius Ayub Tabe, a affirmé avoir rencontré jeudi avec 8 autres leaders séparatistes emprisonnés comme lui à la prison centrale de Yaoundé, des représentants du gouvernement camerounais pour discuter d'un cessez-le-feu en zone anglophone. Le communiqué du porte-parole du gouvernement camerounais réaffirme la disponibilité de Yaoundé à rechercher des solutions pacifiques dans la zone anglophone. Vous écoutez VOA Afrique en direct de Washington. Au Nigeria, environ 200 hommes armés à moto ont attaqué des agriculteurs dans le village de Yagamji, état de Katsina, dans le nord-est du pays. 15 fermiers ont été tués par les bandits dans ce village situé à 25 km de la ville de Katsina, le chef-lieu de l'État, lundi, a déclaré le porte-parole de la police Gambo Issa. Selon ce responsable, des renforts ont été envoyés sur place pour venir en aide aux agriculteurs ciblés. Les communautés rurales de Katsina, état natal du président Muhammadu Buhari, sont fréquemment victimes d'incursions menées par des bandits. Le mois dernier, des bandits ont tué 57 personnes lors d'attaques contre plusieurs villages de cet état. La lutte contre les djihadistes au Burkina Faso, 10 morts au total, dont 6 militaires et un élu local. Tel est le tout dernier bilan de l'embuscade tendue par des hommes armés non identifiés lundi et a coûté la vie à Souleymane Zabri, maire de la ville de Pensa, province de San Matenga, dans le nord du pays. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le ministre de l'administration territoriale. Le précédent bilan mentionnait 8 morts. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Avec vous, Nani Tetelani pour la Minute Éco sur VOA Afrique. En Égypte, les revenus du canal de Suez sont tombés à 5,72 milliards de dollars en 2019-2020 contre 5,75 milliards de dollars l'année précédente. Le mois dernier, les revenus ont baissé de 9,6% à cause de l'impact du coronavirus sur le commerce mondial. Le canal de Suez est la route maritime la plus rapide entre l'Europe et l'Asie. C'est l'une des principales sources de devises étrangères pour le gouvernement égyptien. Au Zimbabwe, Landela Mining a conclu des accords pour reprendre et relancer 4 mines d'or gérées par une société nationale. Ces mines, d'une capacité de production d'au moins 85 000 onces par an, ont été mises en vente en 2018, mais le gouvernement a annulé le processus l'année dernière sans donner de raison. Landela Mining appartient majoritairement à Tagwirei, conseiller du président Nangangwa et l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. L'or est la grande source de devises au Zimbabwe et le contrôle de sa production donne à Landela Mining un meilleur accès au dollar qui fait défaut dans le pays. Pour terminer, Sasol, le géant sud-africain de la pétrochimie, renonce à sa licence d'exploration du gaz au large de Mozambique. La société a obtenu la licence de recherche en 2005. En 2013, elle a abandonné la partie en eau profonde de la licence, conservant la location en eau peu profonde pour évaluer son potentiel en hydrocarbures. Sasol est toujours à la recherche de gaz dans le nord du pays.
24 heures sur 24, VOA Afrique.
Aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information.